Moi, c'est André Lumbashi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. La République démocratique du Congo s'est lancée dans la réforme de son administration depuis 2002. Une innovation dans la fonction publique qui cherche à simplifier les procédures, à motiver les fonctionnaires, à accélérer l'exécution des décisions, à faciliter l'accès aux services publics, à garantir la sécurité de tous, à déraciner les pratiques corruptibles et à réduire des coûts. Tout cela dans le but de rendre les services publics sensibles aux besoins des citoyens et aux enjeux des États modernes. Nous en parlons aujourd'hui avec comme question principale. Pensez-vous que cette réforme pourrait susciter l'émergence d'un nouveau type d'agent de l'État? Notre standard est ouvert, composé le 081 890 63 15 pour participer au débat. Titi Mputu, Alain Goy et Piero Elameji réalisent cette émission et Jir Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nikon Gaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Madame Godelive Elisabeth Longy, vous êtes directeur de cabinet du ministère de la fonction publique. Bonjour.
Bonjour, Capi.
Voilà, madame, d'entrée de jeu, quelles sont les motivations qui ont milité pour la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo?
Merci, Radio Capi. D'abord, c'est la modernité, la simplification des procédures et aussi offrir un service de qualité aux usagers. Comme vous le savez, à l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté, les fonctionnaires jouissaient quand même d'une bonne réputation. L'administration publique arrivait à remplir avec efficacité sa mission de service public. C'est vers les années 60, 65, avec l'introduction du militantisme, que le service public s'est détérioré. Il y a eu effectivement plusieurs réformes. La réforme de 72, malheureusement mal pilotée, qui a conduit au recrutement des jeunes universitaires sans formation pour occuper les postes de commandement dans l'administration. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième phase de la réforme qui a été lancée en 2003. Et à sa 9e année, il est temps de réformer la machine administrative pour répondre aux missions de service public.
Alors, quelles sont les innovations qu'apporte cette réforme?
D'abord, la simplification. La simplification des procédures, offrir à nos usagers un interlocuteur. Aujourd'hui, les usagers ont des problèmes. Ils ne savent pas à qui s'adresser, comment s'adresser, à quel service s'adresser. La réforme de l'administration publique vise d'abord la simplification des procédures et ensuite offrir un service de qualité à nos usagers. Et de cette manière, nous pouvons tous travailler sur la modernité, travailler sur le développement. Vous êtes sans ignorer que le moteur de développement, c'est l'administration. Et quand l'administration est malade, c'est l'État qui est malade.
Voilà, aujourd'hui la plus grande question c'est cette visibilité, la visibilité de cette réforme. Qu'est-ce qu'on peut noter dans le nombre des avancées déjà enregistrées?
La réforme de l'administration ou la réforme de l'État est un processus qui s'inscrit dans le temps. Donc nous pouvons aujourd'hui vous donner les résultats d'étapes. Par exemple le recensement. Nous avons finalisé le recensement de la ville de Kinshasa et lancé le recensement au Katanga que nous venons de terminer. Malheureusement, nous ne pouvons pas respecter notre calendrier parce qu'il était prévu à partir de ce mois de décembre de commencer déjà le recensement dans les deux Kivu, dans la province orientale et puis aller à l'Équateur. Donc pour Kinshasa et pour le Katanga, nous avons des résultats palpables. La situation de retraité, nous l'avons, comme vous le savez. Nous voulons rajeunir, mais pour rajeunir, il faut maîtriser la situation de retraité et offrir des départs honorables à nos vaillants fonctionnaires et recruter des jeunes intelligents, les jeunes de la génération Internet, pour introduire aussi le NTIC dans les méthodes de gestion d'administration publique. Pour cela, ces jeunes ont besoin d'être formés. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une école d'administration. Vous avez sûrement entendu parler d'Elenda dans le temps, qui n'a plus existé depuis 71, et les résultats, nous l'avons aujourd'hui. Le recrutement s'est fait sur base de diplômes. Or, un agent de l'État doit apprendre un métier, le métier du fonctionnaire. Pour cela, il faut une école d'administration qui apprend à l'État comment à l'agent comment se comporter, qu'est-ce qu'un agent de l'État, qu'est-ce qu'il doit faire exactement et quel sera son comportement vis-à-vis des usagers. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous avons des résultats palpables et nous pouvons vous les présenter.
Voilà. Donc, vous avez parlé de l'ENA, qui est réellement au cœur de préoccupations disons, des autorités de la fonction publique. On peut dire aujourd'hui, cette école, c'est une école d'éthique où on apprend comment travailler dans une administration publique.
Oui, c'est une école d'élite. C'est une école de fonctionnaires. C'est une école des agents de l'État. Quand on sort de l'université, nous apprenons des basiques. Surtout le travail intellectuel, académique. Mais quand vous arrivez dans l'administration, vous devez apprendre le métier du fonctionnaire, qui est différent de tout ce qu'on apprend à l'université. Pour cela, il faut mettre l'agent, si je me permets, dans le moule, pour faire un fonctionnaire de l'État. Il doit apprendre à rédiger, c'est la première qualité d'un agent de l'État. Il doit apprendre à réfléchir, il doit apprendre à répondre, et aussi il doit apprendre à classer les dossiers. Donc tout ça, ça s'apprend. Il doit apprendre aujourd'hui aussi les stratégies de développement. Comment faire progresser cette administration. Le monde change, le monde bouge, on aura encore d'autres réformes. Donc il faut qu'on trouve déjà dans l'administration des agents qui sont capables de concevoir des réformes, qui sont capables de les piloter. Aujourd'hui, nous faisons appel de plus en plus à l'aide extérieure, à l'expertise extérieure. Or, la plupart des pays qui ont reformé leur administration, le Japon, le Danemark avec l'État-providence, la Belgique, la France, etc., ils l'ont fait à partir de l'intérieur. C'est-à-dire que l'administration a pris conscience de ses faiblesses, de ses problèmes, et a mis en place une stratégie. Et je vous apprends qu'aujourd'hui, depuis le mois de septembre, au ministère de la fonction publique, nous avons une vraie stratégie revisée de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique.
Alors, parce que vous parlez, vous l'avez dit tout à l'heure, la réforme de l'administration a été un processus long et qui doit être étalé dans les temps. Vous venez là d'évoquer la stratégie révisée. Qu'en est-il ?
En fait, en 2003, quand on a lancé la troisième réforme, c'était dans la logique du gouvernement 1 plus 4. Donc, le cadre institutionnel de mise en œuvre était difficile à suivre. Il y avait plusieurs ministres, puisqu'on ne se faisait pas confiance, tout le monde voulait être là, tout le monde voulait avoir son regard. Donc, tous les membres du gouvernement étaient dans le cadre du pilotage. Et ce comité de pilotage s'est réuni une fois, une deuxième fois. Ils n'ont pas pu se réunir jusqu'à aujourd'hui. Alors, la première démarche proposée par le ministère de la fonction publique, c'est d'abord de rationaliser ce cadre-là de pilotage. Donc, mettre autour du premier ministre, chef du gouvernement, un cadre de pilotage qui regroupe les ministères réellement impliqués dans la réforme de l'administration. Le ministère des Finances, le ministère du Budget, le ministère du Plan, naturellement, pour le suivi de la révolution de la modernité, ils doivent savoir que nous évoluons et nous dire si vraiment nous évoluons vers la modernité, le ministère de la fonction publique et aussi le ministère de l'Intérieur pour les aspects de la décentralisation administrative. Alors aujourd'hui, nous avons un cadre rationalisé de pilotage autour du Premier ministre, chef du gouvernement. La deuxième étape, c'était mettre en place une stratégie révisée en déclinant clairement les actions et en les étalant dans le temps. C'est-à-dire préparer le cadre de retraite, faire la situation de retraité, mettre en place une caisse de rajeunissement et une caisse plutôt des pensions pour assurer le rajeunissement. Comme vous le savez, on ne peut pas recruter s'il n'y a pas de postes vacants dans une administration. Alors pour qu'il y ait des postes vacants, il faut assurer la retraite. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont envie d'aller à la retraite. Les fonctionnaires le demandent. Mais malheureusement, il y a une certaine peur. Qu'est-ce qu'ils auront en partant à la retraite ? C'est pourquoi, pour le ministère de la fonction publique, le préalable, c'est la mise en place de cette caisse-là de retraite pour pouvoir assurer la retraite, planifier le rajeunissement, former les jeunes qui vont entrer dans l'administration, qui vont nous permettre de lancer une nouvelle administration avec des cadres formés. Pour cela aussi, nous nous sommes lancés dans la rationalisation des cadres organiques. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas le cacher, nos administrations, d'une manière générale, sont pléthoriques, surtout dans les grandes villes et les grandes agglomérations. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les fonctionnaires. On a recruté plus qu'on en a besoin. Alors, il faut rationaliser pour savoir quel est le besoin d'un service pour fonctionner. Le service pour fonctionner a besoin de combien d'agents ? A besoin de quel cadre organique ? Nous avons finalisé ce travail-là. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire combien d'effectifs a besoin le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère du Plan, le ministère de l'Économie, etc. il y a aussi le cadre juridique qu'il faut actualiser aux réalités du moment. Il faut moderniser l'administration. Aujourd'hui, avec la décentralisation, comme vous le savez, le fonctionnaire est chevillé au statut. Mais ce statut, aujourd'hui, il est un tout petit peu dépassé. Pas totalement, évidemment. Mais il y a des adaptations à faire. Nous avons eu recours à nos éminents professeurs d'université, les constitutionnalistes, pour nous aider un peu à préparer, à faire une relecture de ces deux projets de loi. Le projet de loi organique portant fonction publique d'administration centrale, provinciale et locale, et puis le statut général de la fonction publique. Ces deux lois seront présentées à la prochaine session parlementaire.
Voilà. Madame Godelive, avant d'accorder la parole à nos auditeurs qui sont déjà en ligne, Franklin qui est à Bukavu et Philo à Lubumbashi, permettez-moi de vous poser la question, parce que vous avez dit au nombre des innovations, c'est vrai, l'objectif c'est arriver à motiver les fonctionnaires. Je crois que c'est cela d'ailleurs le nœud du problème. Aujourd'hui, pour éviter, et d'ailleurs, parce que l'objectif c'est d'arriver aussi à déraciner les pratiques corruptibles dont sont plongés plusieurs fonctionnaires, est-ce que dans cette réforme, la question sur la motivation des fonctionnaires est prise en compte?
Bien naturellement. Vous savez que la retraite est calculée sur les cotisations avec la modification des statuts, parce qu'aujourd'hui nous avons le système en vigueur, c'est un système octroyé. C'est-à-dire que c'est l'État qui prend en charge la retraite. Mais avec les modifications qui seront proposées au Parlement, il y a la cotisation aussi des agents qui est prévue. Mais pour cela, il faut une véritable politique salariale. Il faut que le salaire soit assez incitatif pour aussi attirer les jeunes dans l'administration. Il faut que le salaire soit incitatif pour pouvoir bénéficier d'un fonds de retraite honorable. Donc, c'est une question qui est en étude, c'est une question que le ministère de la fonction publique prend à cœur.
Voilà, Franklin, vous êtes à Bukavu et Philo à Lubumbashi. Nous rappelons à tous les autres qui aimeraient bien participer à ces débats de composer les 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Le débat politique, c'est un dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Franklin, vous êtes à Bukavu, bienvenue. Bonjour Franklin.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour à notre invité.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de la réforme de l'administration publique. Pensez-vous que cette réforme pourrait susciter l'émergence d'un nouveau type d'agent de l'État?
Oui, je pense que c'est une bonne idée, parce que de par les fonctions qui sont reconnues à l'administration publique, qui sont l'information, la préparation des décisions, la prévision et l'exécution, il est vraiment impérieux que l'administration soit soumise à des réformes pour essayer de faire face aux différents problèmes, pour l'adapter aux missions qui lui sont confiées. Mais cela, je pense qu'il y a des préalables, il y a des conditions qui doivent être remplies, et il y a des propositions qui doivent être faites, parce que vous pensez que si la Belgique s'est maintenue pendant plus d'une année sans gouvernement, c'est parce qu'effectivement elle avait une administration forte. Je pense, à mon avis, il faut, pour avoir une administration nette, une administration forte, il faut que la politique respecte l'indépendance de l'administration. Il ne faut pas beaucoup plus politiser l'administration, même des réformes qui sont faites, c'est en fait des réformes politiques, souvent nous attendons, nous voyons ça. Ce sont des réformes où on effraie seulement les gens des partis politiques. Moi, je pense qu'il faut arriver à dépolitiser l'administration politique, l'administration publique, rendre apolitique cette administration. Il faut également respecter la règle du principe du recrutement. Et la règle est le concours au terme duquel on sélectionne les meilleurs. Ce sont les meilleurs qui doivent être admis dans l'administration publique. Parce que parmi les handicaps, M. Gier, de notre administration, ce sont les recommandations qui, parfois, ces recommandations ne tiennent pas compte des mérites. Il suffit d'avoir un frère ministre, PDG quelque part, ADG, et vous êtes admis dans l'administration publique, peu importe votre niveau. Troisièmement, au-delà de ça, il faut la sanction. La sanction doit être au rendez-vous. Et ça doit vraiment être une sanction sans complaisance, car aucune gestion ne peut être efficace si elle ne s'appuie pas sur des valeurs républicaines, mais aussi sur l'exigence de la sanction sans complaisance. des actes qui sont commis individuellement ou par groupe. Et ça, je pense aussi qu'il faut mettre en place des institutions qui font des réformes, parce qu'il ne faut pas être là quand on constate que non, il y a ce qui ne va pas, qu'on puisse passer à la réforme. Mais il faut qu'il y ait des institutions d'une manière permanente qui vont faire les réformes à tout le temps. Ce qui permettrait, d'un point de vue, de percevoir l'administration sous une optique dynamique. Parce que cette manière de faire incite les agents administratifs à une vigilance. Eh bien, moi, je voudrais poser un peu une question avant de terminer à notre invité.
Oui, allez-y.
Si j'ai le temps.
Oui, allez-y, vous avez 30 secondes.
Je voudrais poser à notre invité quel type de réforme on a adopté, quelle méthode. Est-ce que c'est une méthode expérimentale, c'est une méthode brutale, ou c'est une méthode institutionnalisée, où il y a des structures qui, à tout moment, se focalisent sur l'administration, sur la réforme de l'administration publique. Et la deuxième question, c'est que depuis 2003, quelque chose comme ça, que cette réforme a été lancée. Mais jusqu'à présent, où est-ce que nous sommes avec, et pourquoi cette réforme tarde à produire ses effets? Voilà un peu ce que moi je voudrais.
Voilà, merci beaucoup Franklin. Vous avez évoqué là quelques préalables. Vous avez cité même l'exemple de la Belgique, hein, qui, à l'absence du gouvernement, l'administration a marché, a fonctionné, et ça a permis à la Belgique de tenir. Et vous avez souhaité que l'administration soit dépolitisée pour avoir le succès donc dans cette réforme. Et puis le principe de recrutement, que la fonction publique ne soit pas considérée comme un dépotoir ou c'est vrai, il y a le tribalisme, le clientélisme qui prend le dessus. Voilà, donc il faudrait que tout cela soit respecté. Et vous avez terminé avec deux questions. Quel type de réforme voilà, que propose la fonction publique? Il s'agit là d'une méthode expérimentale ou encore une méthode brutale? C'est la question que vous avez posée. Et puis la deuxième, c'est par rapport à la visibilité de cette réforme. Merci, Franklin. Nous prenons Philo qui est à Lubumbashi. Philo, bonjour.
Bonjour Gérard, vraiment je suis ravi de passer pour la toute première fois sur ma radio préférée.
Voilà, nous, le plaisir est partagé quand nous élargissons les champs de nos auditeurs et ça nous fait énormément plaisir. Okay. Philo, vous avez la parole.
Ok, et merci beaucoup. Et pour commencer, je vais pouvoir et présenter mes vœux le meilleur, puisque je ne sais pas si j'y passerai encore sur cette radio mondiale.
Mais oui,
je présente mes vœux le meilleur à tous les auditeurs des radios Okapi et à madame votre invitée et particulièrement au docteur Richard de Kinshasa, que je ne connais pas, mais ses interventions sur radio Okapi me plaît toujours. Et il y a un monsieur aussi de Kikuit que j'ignore les noms. J'ai l'air
oui, Arsène,
de le meilleur
Arsène
pour la journée d'aujourd'hui.
Voilà, merci.
Et je vais dire ceci. La réforme, c'est très bonne chose pour l'administration publique, notre administration. Moi, qui vous parle, je suis un administratif ici dans la ville de Lubumbashi. Mais l'administration n'existe pas, mon cher Gère. Ça n'existe pas, il n'y a pas l'administration au Congo. Nous sommes en train de bricoler les histoires. Et si on nous amène une réforme, ça va vraiment faire développer ce pays. Le développement d'un pays, c'est à partir de l'administration. Mais comme notre administration est très politisée, chaque politicien qui vient, il veut placer à la tête à l'administration ses frères et sœurs. C'est pourquoi l'administration ne peut pas bien marcher. Ici, je m'en vais vous dire, ici à Lubumbashi où nous sommes. Les agents là qui sont venus pour le recensement biométrique.
Oui.
Mon cher, il fallait être là. C'était le tripatriage. Ils sont venus pour recenser les fonctionnaires ou bien pour engager les NU. Ils ont engagé combien de NU à Lubumbashi? Et je m'en vais vous donner un exemple dans un tribunal à Lubumbashi ici, que j'étais le nom de ce tribunal. Un président qui a été nommé dans ce tribunal-là, il vient avec son frère qui est un qui n'a pas un numéro matricule, il vient avec lui, il le place à la réception. 5 mois après, le président voyage à Kinshasa, il arrive à Kinshasa, il revient avec un numéro matricule. Il revient avec le numéro matricule de son frère-là, et il est placé chef de bureau. Il quitte de 1I jusqu'à chef de bureau, s'il vous plaît. Et chef de bureau, un mois après, on le place dans un service très important de l'État. quelqu'un qui ne connaît absolument rien de l'administration, qui n'a pas fait une année. Vous voyez, nous sommes dans quel état?
Voilà, donc le souhait...
Là, nous sommes dans quel état?
Voilà, Philo, si je comprends votre... Oui, allez-y, vous avez encore gagné le match.
Les agents sont envoyés à Lubumbashi. C'était pour repenser les fonctionnaires. Au bien, c'était pour des nouvelles unités. Donc, c'est cette question-là que je voudrais bien répondre à cela. Voilà, merci beaucoup, Gilles. Mon intervention se termine à ce niveau-là.
Merci beaucoup, Philo, c'est gentil. Vous avez évoqué l'inexistence de l'administration et vous avez donné même un exemple par rapport à ce recensement, l'opération recensement biométrique qui a eu lieu, qui s'est passé donc au niveau de Lubumbashi. Vous avez évoqué le cas d'un tribunal où le président place son frère et puis deux mois après, il octroie un numéro matriculé pour son frère, ben voilà. Donc des cas de clientélisme, le tribalisme dans l'administration publique, selon vous, c'est ce qui tue. Merci beaucoup, Philo. César, vous êtes à Kisangani, bonjour. César, vous êtes à Kisangani, bonjour. Voilà, il est temps pour nous de répondre d'ailleurs à la question de Philo et de Franklin. Godelive Elisabeth Logie, vous êtes notre invité. Vous avez suivi tour à tour les intervenants de tout à l'heure. Philo qui pose un problème sur les recensements biométriques et Franklin et qui a parlé aussi comme Philo de cas de l'inexistence de l'administration. Que répondez-vous aux uns aux autres, Madame Godelive?
Il est vrai que notre administration aujourd'hui garde encore les stigmates du militantisme qu'on avait introduit dans l'administration en 1965. Vous savez que la Deuxième République avait proclamé la suprématie du militantisme pour la maîtrise des activités de l'administration de l'État. Alors, comment déraciner toutes ces pratiques? C'est à ça que nous nous appelons. Il y a eu une première réforme, effectivement, en 1972. C'est tout à fait normal. Le monde change, le monde bouge. On doit réformer. On doit adapter l'administration aux enjeux du moment. On doit adapter l'administration aux attentes des usagers, aux besoins des usagers qui changent au jour le jour. Donc, une réforme, ce n'est pas une mauvaise chose. Une réforme, bien au contraire, c'est quelque chose qui permet à l'administration de se mettre à la hauteur, de l'administration d'être compétitive sur le marché. Nous avons lancé une deuxième réforme en 1981, avec un nouveau statut de l'administration, mais attention, vous savez qu'avec les pillages, il faut vraiment analyser le contexte dans lequel évolue notre administration pour bien comprendre ces problèmes. Avec les pillages de 1981-1993, 1991-1993, il y a eu la fermeture des entreprises. Donc le chômage a augmenté, l'État était devenu le seul employeur. En fait, l'État a fait du social. C'est-à-dire que tous ces gens qui étaient dans la rue, qui n'avaient plus d'emploi, l'État était obligé de les recruter, de leur donner un emploi. Donc, vous comprenez que le problème de notre administration, ce n'est pas un problème facile, mais nous allons trouver des solutions ensemble. C'est pourquoi, avec la nouvelle stratégie, on n'a pas mis les fonctionnaires en dehors de la réforme. Bien au contraire, aujourd'hui, le fonctionnaire lui-même est au cœur de sa réforme pour lui-même suivre le changement qui doit exister dans l'administration. Avec le cadre revisé de mise en œuvre de la réforme, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous pilotons la réforme en dehors des structures pérennes, en dehors de l'administration elle-même. Il est vrai que l'administration a été politisée depuis 1965. Il est vrai que la Belgique a réussi sa réforme, parce que la Belgique a voulu séparer le nouveau politique du nouveau administratif, ce qui est normal. Mais nous, jusqu'à présent, nous avons le niveau politique et le niveau administratif qui est séparé. Peut-être que nous ne communiquons pas assez, je ne sais pas, mais peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas très bien son excellence Jean-Claude Kibala. Bien sûr, il est un peu discret, mais n'empêche qu'il y a des avancées au niveau de la fonction publique, parce que nous devons parler avec des résultats palpables.
Oui, Madame Godelive.
Le Danemark a mis 22 ans pour faire sa réforme de communes.
Oui.
Et nous venons de lancer notre réforme. Je n'ai pas dit que nous allons faire 22 ans, mais c'est un processus.
C'est un processus qui va aller, selon nos informations, jusqu'en 2016.
Même au-delà, pourquoi pas? Parce que les choses, il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver. Nous voulons introduire le NTIC dans l'administration, dans la gestion de la chose publique. Il faut pour cela des infrastructures, il faut construire des infrastructures, il faut construire des passerelles informatiques. Tout ça fait partie de mécanismes de modernisation de l'administration. Pour répondre à notre auditeur de
Delmachy,
d'abord, merci pour le vœu, que je le réciproque. Il y a eu recensement, mais nous venons à peine d'avoir les résultats des recensements. Donc on ne peut pas déjà dire qu'il y a eu des affectations. C'est pas maintenant. Nous venons de recevoir les résultats de recensement. Ils seront dépouillés. Il y a un deuxième contrôle qui s'effectue au bureau pour voir si les agents sur le terrain ont fait leur travail. C'est le contrôle de conformité. Il y aura des rejets. Vous savez que l'œuvre humaine est perfectible. Mmh. Nous venons à peine d'avoir les résultats d'une machine. Laissez-nous le temps. Les équipes viennent d'arriver la semaine dernière. Laissez-nous le temps de dépouiller et nous allons afficher les résultats.
Voilà, madame, si on peut passer rapidement en revue les cinq piliers de cette réforme. C'est vrai que vous avez évoqué quelques-uns. Mais quel est le pilier le plus fondamental sur lequel, en tout cas, cette réforme se base?
D'abord, la mise en place de la caisse de retraite. Mmh. Notre administration a vieilli, notre administration est pléthorique et nos vaillants fonctionnaires ont envie d'aller à la retraite. Mais comment vont-ils aller à la retraite? Et nous aussi, fonctionnaires, parce que moi aussi je suis fonctionnaire, nous avons des problèmes. Les jeunes qui vont arriver, ils doivent apprendre un métier, ils seront formés dans une école d'administration, mais aussi dans l'administration, par les aînés, qui doivent transmettre les connaissances aux jeunes qui arrivent. Donc, nous devons assurer cette transition aussi. Il ne suffit pas d'envoyer à la retraite, mais il faut s'assurer que ceux qui viennent soient à mesure de pouvoir travailler dans l'administration, soient à mesure de donner satisfaction aux usagers. Et après, maintenant, vient le cadre juridique qui doit être modernisé et naturellement lancer tout ce que nous avons comme formation, tout ce que nous avons comme recrutement aussi dans les autres provinces.
Alors, il y a Hervé qui est à Lubumbashi et Justin à Kalima. Bonjour Hervé.
Tiens.
Oui, Hervé, vous avez la parole.
Pour moi, je pense que l'objectif devrait être d'instaurer une politique de bonne gouvernance de manière transparente et participative. En tant qu'ingénieur, je pourrais dire que la nouvelle technologie va donner l'accès à l'innovation, qui donne la possibilité de bien contrôler cette administration, qui favorise l'accès à l'information au moment opportun pour prendre des décisions, des bonnes décisions. Ça veut dire quoi? Le cadre doit être bien formé et doté des outils modernes. Avec la technologie aujourd'hui, l'accès à l'information doit rester et maintenant il faut bien analyser quel type d'information on met à la disposition des agents de l'État. Et quel type de connaissances cet agent doit avoir pour bien exercer son métier. Et dans ce contexte, l'État a un rôle plus à jouer seul, d'assurer un support permanent dans la réorganisation de cette réforme. Moi, je pense que c'est une bonne initiative qui s'engage la RDC et j'ai dit coup de chapeau au gouvernement de continuer parce que le Congo, c'est un pays durable à l'horizon. Nous espérons que ça va aboutir et nous souhaitons vraiment un succès pour cette réforme au gouvernement. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup Hervé. Vous saluez de demain cette réforme et vous souhaitez que cela puisse réellement aboutir. Justin, vous êtes à Kalima, vous avez la parole. Est-ce que vous saluez également cette réforme et que pensez-vous que cette réforme pourrait susciter l'émergence d'un nouveau type d'agent de l'État?
Bon, je ne peux pas dire que je salue totalement. C'est une initiative que nous pouvons tous, en tant que Congolais, saluer, parce que on ne peut pas parler de la réforme de l'administration publique sans d'abord prélever les problèmes qui s'y trouvent. Il s'agit du personnel administratif et aussi manque de motivation, contrôle. Il n'y a pas contrôle sur l'effectif et aussi l'anachronisme de certains services publics dans le territoire, c'est-à-dire dans l'administration territoriale. Voilà. Et tout ça, ça pose problème. Et là, j'avais oublié aussi la politisation de l'administration publique territoriale. Et alors, par rapport à cela, l'État doit réformer l'administration dans notre pays tout en résolvant d'abord les problèmes que je venais de citer tantôt. Par rapport, par exemple, au vieillissement du personnel, là, il faut rajeunir, n'est-ce pas, le personnel administratif. Et aussi motiver, parce qu'on doit accompagner ce rajeunissement avec la motivation, n'est-ce pas? Par exemple, aller au-delà de 25 000 francs par mois, par exemple. Et aussi, l'État doit quand même maîtriser l'effectif du personnel administratif dans notre pays. Aussi, j'aimerais aussi donner le remède selon lequel l'État doit supprimer, n'est-ce pas, certains services qui ne répondent plus aux attentes de la population. Car le but, monsieur, de l'administration dans un pays, c'est de satisfaire l'intérêt général. Et alors, on doit supprimer certains services, notamment des services comme la cité, poste d'encadrement administratif, qui ne répondent plus, qui continuent à être gardés dans notre pays. Voilà, tout ça, c'est encombrer l'administration pour rien. Et aussi, enfin, j'aimerais dire qu'il faudra dépolitiser, n'est-ce pas, les services publics, l'administration publique, parce qu'on nomme n'importe qui de son obédience, les clientélismes qui dominent l'administration dans notre pays. Et tout ça, on doit en tenir compte. Comment expliquer quelqu'un, par exemple, vous êtes secrétaire général administratif dans une institution supérieure et universitaire, qui doit contredire, n'est-ce pas, la décision du recteur. Vous pensez que celui-là, il est vraiment routinier ou il est vraiment, il a de l'expérience dans la politique? Tout ça, ça entre dans la ligne de compte de la politisation parce que il y a quelqu'un qui l'a nommé et il peut être enflé d'orgueil que à tout moment il peut rejeter la décision de son chef. Voilà, monsieur, c'est tout ce qui était comme ma contribution, mais en fait, nous louons l'initiative de la réforme. Parce que c'est là, et à l'intérêt de tout Congolais.
Voilà, merci Justin d'avoir appelé les Kalima. Nous retenons que votre souci est de voir l'administration être dépolitisée. Et vous demandez également, dans le cadre toujours de cette réforme, que le ministère de la fonction publique puisse avoir la maîtrise de l'effectif et au besoin supprimer certains services qui sont anachroniques et qui ne sont plus dans les temps. Merci beaucoup Justin d'avoir appelé les Kalima. Samy, vous êtes à Mahagui. Bonjour. Samy, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, le temps de retrouver d'autres auditeurs qui sont également en ligne. Nous vous rappelons, chers auditeurs, vous pouvez également participer à ces débats en composant les 081-890-6315.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par Internet. pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous retrouvons notre invité, Godelive Elisabeth, qui sera à un moment ou à l'autre directeur de cabinet de ministre de la fonction publique. Voilà, donc nous parlons, comme je l'ai dit tantôt, de la République démocratique du Congo qui s'est lancée dans la réforme de son administration depuis 2002, une innovation dans la fonction publique qui cherche d'abord à simplifier les procédures, à motiver les fonctionnaires, à accélérer l'exécution des décisions, à faciliter l'accès aux services publics, à garantir la sécurité de tous, à déraciner les pratiques corruptives et à réduire les coûts. Alors tout cela dans le but de rendre les services publics sensibles aux besoins des citoyens et aux enjeux des États modernes. Donc notre question du jour, c'est, vous pensez-vous que cette réforme pourrait susciter l'émergence d'un nouveau type d'agent de l'État? Et là, avec notre invité, on parlait d'ailleurs de l'établissement d'une caisse de retraite et d'un fonds de mise à la retraite qui, au fait, le coût est estimé d'ailleurs à $500,000 selon l'expertise internationale et selon toujours le document de la stratégie révisée de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, les sources de financement donc, cet argent ne peut provenir du trésor public et à hauteur de 20%, donc les restes est à rechercher donc avec les partenaires. Nous avons des auditeurs qui sont en ligne. Sylvain qui est à Lubumbashi. Sylvain, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Voilà, c'est bon.
Merci pour m'avoir aussi autorisé de parler aujourd'hui sur Radio Okapi. Nous savions tous la réforme de l'administration dans notre pays, mais il y a beaucoup de failles. Parce que la maîtrise des effectifs est un peu complexe. Nous remarquons au cours du recensement biométrique Il y a les agents qui sont dans les entreprises, dans l'État, et entre-temps, ils travaillent dans les entreprises de la place. Comment notre gouvernement peut maîtriser cette chose?
Voilà, donc, votre préoccupation tourne, vous avez une question, vous avez posé une question.
Des effectifs, la maîtrise des effectifs
oui.
N'est pas vraiment... donc, on ne peut pas maîtriser les effectifs.
Donc, malgré le recensement...
Nous trouvons quelqu'un qui travaille dans une entreprise de la place,
oui.
Mais entre-temps, il est agent de l'État. Il ne se présente au bureau qu'une seule fois, mais à la fin du mois, il est en train de toucher son salaire. Oui, bon, comment on peut arriver à je crois que la réforme sera bénéfique pour les petits enfants, parce que pour le moment, l'État a beaucoup...
Oui, Sylvain, pour votre information, dans le cinquième pilier, qui concerne d'ailleurs, dans le paragraphe 10, sur la promotion de l'éthique professionnelle et lutte contre la corruption, il est bien dit, la réforme de l'administration publique passe aussi par l'éradication des antivaleurs qui gangrènent les différentes structures de l'administration publique. Donc, cela a été pris à cœur, et c'est en fait, c'est le souci d'ailleurs des autorités de la fonction publique d'arriver à donner un cadre qui pourrait être agréable pour tous les fonctionnaires.
Oui, c'est ça. Bon, parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons, nous saluons bien la réforme de l'administration, mais qu'on fasse tout pour maîtriser la chose.
Donc la maîtrise des effectifs.
Des effectifs, c'est ça le problème. Parce qu'il y a les gens qui ont double étiquette, ils touchent son salaire. Dans l'entreprise où il travaille, une entreprise privée, et puis à la fin du mois, il va à la banque, il touche encore son salaire de l'État. Vous voyez que bon, la caisse de l'État est vraiment épuisée.
Voilà, merci Sylvain. 081-890-6315 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Voilà, avec notre invité, on va passer en revue des autres piliers de cette réforme, mais il est temps d'abord d'accorder la parole à André qui est à Kinshasa. André, bonjour.
Bonjour monsieur. Je voulais intervenir au niveau de la réforme. Hein, sur le
financement. Oui, allez-y.
Vous savez, à un moment, on devait d'abord bénéficier sur les retombées lorsqu'il y a... Et on avait parlé aussi de bénéficier la révolution. Mais ce qu'on constate, c'est quoi? Lorsque on voulait mener une réforme si un domaine quelconque, il faut voir d'abord ce qui était passé, ce qu'on avait fait par le passé, si ça ne marche pas. Et puis, de deux, lorsque un groupe de Javel fait la réforme, il n'associe pas les acteurs. C'est ce qui est un peu mauvais. Voilà, les étrangers, oui, ils viennent. Mais les services traditionnels, par exemple, les responsables, les directeurs, les chefs de division, on les intègre pour mieux mener, décerner pour que nous puissions obtenir les bénéfices. Sans cela, en tout cas, ça sera un peu difficile.
Merci beaucoup, André. Vous souhaitez que les personnes bénéficiaires de cette réforme soient également associées, et notamment les fonctionnaires de l'État. Donc, merci. Freddy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gérard.
Voilà, Freddy, vous avez la parole.
Ah, je demande à notre invité. La réforme là qu'on va faire ne sera pas politisée aux enfants des autorités qui travaillent au gouvernement. Tout le monde, il y a beaucoup de licenciés qui chôment et de gradués. Mais moi j'ai dit à notre invité que la réforme là qu'on va faire, il fallait tout le monde qu'il profite. Ce n'est que les enfants des autorités qu'on va aller prendre pour les mettre. Non, là-bas on a refusé. J'ai quelques questions de savoir que je voulais poser à notre invité. Les réformes là qu'on va faire, est-ce que ça sera gratuit ou pas, on va payer comme l'argent de l'université. Après, deuxième question que je voulais poser encore, ce n'est même les déficits. il va entrer ou pas, ce n'est que des gradués et des licenciés. Mais ça ne sera pas politisé. Là, on a refusé parce que c'est les biens de tout le monde. C'est tout le monde qui va profiter parce que nous tous, nous sommes les peuples congolais. Merci.
Voilà, merci beaucoup, Freddy. Mais il faudrait, Freddy, retenir que cette réforme, donc dans cette réforme, globalement, l'appareil, on reconnaît globalement que l'appareil de l'État est obsolète, vieillissant, avec un effectif pléthorique dans les grands centres urbains et sous-doté dans des autres agglomérations, défaillant au niveau des ressources matérielles et humaines, notamment en termes des qualifications. Et ce qui a fait que aujourd'hui, donc, l'objectif, c'est rajeunir cette administration. Voilà, donc c'est on a pris à cœur cet objectif, et je crois qu'on arrivera à donner les résultats escomptés. Pensez-vous que cette réforme pourrait susciter l'émergence d'un nouveau type d'agent de l'État? C'est la question du débat, et généralement, vous pouvez aussi nous faire parvenir vos commentaires et aussi vos préoccupations, et déposez-les sur notre page Facebook, et aussi nous écrire à notre adresse pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Voilà, nous avons Ismaël qui est à Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Hier.
Vous avez la parole Ismaël.
Oui, juste je devais intervenir au niveau de la réforme. Juste, bien des personnes qui ont intervenu, ils sont parfois sceptiques. Mais moi, je encourage d'abord l'État et de fait qu'ils ont d'abord, oui, c'est suffit de faire aussi des réformes en vue aussi de moderniser les services. Et ce que nous pouvons tous penser et se trouve à ce niveau. Juste quand on va faire ainsi, ce qui va nier ou déranger encore boycotter, c'est quoi? Parce que le pays passera par le tribalisme. J'ai nommerai celui-ci, je ne sais pas s'il est de telle ou telle province, il est de telle ou telle de mes parentés proches. Alors cela ne pourrait jamais avoir l'ampleur. Et je souhaiterais aussi dire à ce que nous puissions avoir un point de vue commun en vue de soutenir cette réforme. Au titre d'exemple, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plus aussi de chômage et que des gens, soit ils travaillent, mais des conditions ne sont pas souvent soutenues. Je demanderai aussi à l'invité que quelle sera aussi la profession sincère pour ceux qui seront réformés et quelle peut être l'applicabilité. Parce qu'on a souvent, on dit, oh, oh, celui-là, on a telle loi, mais l'applicabilité souvent. Et souvent des réformes, on peut dire comme ça, mais je insisterai à cette inapplicabilité de cette réforme. De ce fait, nous serions un peu jouir dans le travail et bien équipés encore. Et le personnel, juste quand on va regretter. Je demanderai aussi au regrettement, qu'est-ce qui se passe en RDC? Juste qu'on fait par exemple l'offre d'emploi, on dit, nous regrettons tel, les dossiers, ainsi de suite. Juste quand vous déposez même les dossiers, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens déjà engagés. Vous passez même par les tests, c'est tout à fait contraire. Et je demanderai à ce qu'il y ait maintenant, qu'il n'y ait pas une distinction, je ne sais pas si c'est le sujet de telle ou telle province. Au lieu de telle ou telle parenté, c'est là, je pourrais voir que cette réforme pourrait prendre aussi l'ampleur. Je finirai maintenant pour montrer encore que l'impunité encore fait aussi voir que bon, c'est tout à fait difficile. Remarquez si j'ai nommé par exemple hier, c'est mon oncle, il est directeur par exemple de BMR. Ça sera difficile de le punir. Et si JR, si nous connaissons en qualité de JR, l'un des journalistes de la radio Capi a été élu comme député national. C'est parce qu'on sait de sa qualité. Si on regrette des gens, par exemple, dans cette réforme, en tenant compte de ses capacités intellectuelles, cela pourrait aussi donner l'ampleur et nous tous, nous gérons. Tel que, présentement, nous sommes les chômeurs. Et dans le jour J, je sais que on peut aussi se réjouir hier. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup, Ismaël. Jean, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, J.R.
Voilà, Jean, vous avez suivi tour à tour vos prédécesseurs. Pensez-vous que cette réforme pourrait susciter l'émergence d'un nouveau type d'agent de l'État?
Effectivement, la réforme peut susciter un nouveau type de fonctionnaire de l'État, à condition que certains préalables soient réalisés. Nous en profitons pour saluer Mme Gauthier, mais nous disons que, effectivement, aujourd'hui, il y a le problème de profil des personnes qui doivent être recrutées selon les secteurs de l'administration. Cela n'est pas suffisamment fait, mais également, j'ai entendu Mme Gauthier parler du cadre rationalisé, du cadre organique rationalisé, et que ce processus était terminé. Il faut peut-être qu'elle le revoie très bien si ce cadre organique a été rationalisé auprès de toutes les administrations publiques, ce dont je ne suis pas pratiquement sûr pour le moment. Mais également, cette réforme ne réussira que si l'environnement dans lequel va travailler ce fonctionnaire, cet environnement-là, est devenu attrayant. Je veux dire, les conditions dans lesquelles il travaille. Qu'on fasse un peu l'inventaire de toutes les administrations publiques. Où sont-elles logées, ces administrations publiques? Dans les bâtiments publics de l'État? Dans les bâtiments qui sont pris en location? Sous quelles conditions? Le nombre de ces personnels qui sont dans ces bâtiments-là correspond effectivement aux locaux et à tout ce qu'on peut retrouver dans ces bâtiments? Voilà autant de questions qu'il faut résoudre avant. On peut faire partir les gens à la retraite d'une manière honorable, mais les jeunes qu'on va recruter, on va les placer où? On a, les administrations publiques n'ont pas de bureau, ça vous le savez, circuler dans la ville. On n'a pas de bureau, on n'a pas de matériel. Je crois que l'administration aurait pu commencer par ça. On localise des centres où on construit des bâtiments de l'État et on cadre. On met du matériel pour ce fonctionnaire et on le forme en améliorant son environnement de fonctionnalité. Au fait, la réforme, elle est intéressante. Les idées qui sont évoquées, elles sont très bonnes, mais je pense qu'il faut des préalables à tout cela. Et pour qu'on puisse réussir totalement, il va falloir qu'on implique suffisamment les acteurs de l'administration publique. A-t-on fait des états généraux de l'administration publique? On est arrivé à quelle solution, à quelle résolution? Ces résolutions-là sont-elles connues de ces fonctionnaires? Ce sont des grandes questions. Circulez dans les administrations. Personne ne peut vous parler des cinq piliers qu'on vient d'évoquer là. Personne. Y compris les directeurs, les chefs de division, les chefs de bureau. Je crois qu'il faut une action de communication, mais également il faut asseoir des préalables avant de faire aboutir ces réformes.
Alors nous avons retenu une chose, Jean, vous souhaiterez qu'en amont, avant même qu'on puisse arriver à ce cadre juridique, qu'on ait eu à organiser des états généraux pour réellement impliquer les acteurs, notamment les fonctionnaires qui sont les bénéficiaires de cette réforme. D'abord un état des états généraux, ça pourrait donner de bons résultats également. Ou soit vulgariser, communiquer avec ceux qui sont concernés pour que ces derniers puissent s'approprier de ce projet. Merci beaucoup, hein, Jean, d'avoir appelé de Kinshasa. Madame Fifi, vous êtes également dans la ville-province de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
C'est toujours un grand plaisir d'avoir une dame sur les ondes de Radio Capi. Vous avez la parole, madame.
Je salue tous les auditeurs. Je voulais intervenir. La réforme, elle est la bienvenue. Mais à mon niveau, je pense que ce sont les dirigeants. Est-ce que vont-ils... Il y a toujours des textes, il y a toujours des réformes, mais elles ne sont pas respectées. Aujourd'hui, qui réforme et qui? Ce sont les dirigeants, le gouvernement. Mais le gouvernement, de rigueur, ne respecte même pas les fonctionnaires. Je donne un exemple. Un exemple, les ministres qui déplacent les secrétaires généraux comme ils veulent. Les directeurs des cabinets donnent des injonctions aux secrétaires généraux. Un directeur de cabinet nommé par... Un ministre donne les injonctions sur un secrétaire général qui est nommé par le président de la République. Ben, je crois que même eux, les dirigeants, ne respectent même pas les fonctionnaires, ne respectent même pas les textes. Et on peut accéder aux réformes, mais si il n'y a pas réconversion de mentalité, moi je pense que ça, on va beau parler, les résultats seront médiocres. C'est toujours ça le problème de notre pays, le non-respect des textes. Et il y a un gouvernement de vous m'excuserez, je m'attaque pas au gouvernement, mais ce sont vraiment des vrais problèmes qui rongent l'administration publique. Les agents et cadres sont apolitiques, mais ils sont dirigés par les politiciens. On ne peut pas refuser l'interaction entre acteurs, c'est-à-dire les cabinets politiques et les administrations, parce qu'on est obligé de travailler. Mais les injonctions, et on exige même les secrétaires généraux d'adhérer dans des partis politiques. Tout ça dérange vraiment. Moi, je crois, vous verrez même aujourd'hui, je vous demande d'aller enquêter, parce que vous êtes journaliste, il y a le journalisme d'investigation. Vous verrez que les bon nombre de secrétaires généraux sont suspendus parce qu'ils ont simplement tenu à la position de l'administration. Ils ont refusé d'intégrer la vision politique directe de leur ministre. Donc, quand on parle de réforme, on doit revoir tout ça et essayer vraiment de dissocier l'administration
La politique, vous voulez dire.
La politique. C'est ce qui ronge, c'est un vrai problème. La fonction publique, c'est un parti politique qui occupe. Ce sont les composantes. Moi, je pense que... Je sais pas. C'est la politique. Donc, la politique a l'emprise sur l'administration. C'est voilà, pratiquement impossible que tout cela réussisse.
Voilà,
moi, je pense
qu'il
faut réfléchir. Oui,
Madame Fifi, est-ce que vous partagez l'avis de Justin, qui avait appelé tout à l'heure, des Kalima, qui, selon lui, il faudrait que cette réforme puisse se pencher aussi sur la question de d'autres services, qui sont d'ailleurs à la chronique, selon ses propos, qui ne peuvent plus exister dans l'administration, qui sont des trous.
Oui, je partage avec lui, les vrais problèmes ne sont vraiment pas identifiés parce que il y a déjà inversion des valeurs. Si on s'est penché sur les problèmes sérieux, je crois que ça serait une très bonne chose.
Merci beaucoup Madame Fifi d'avoir appelé 081 890 63 15 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Madame Godelive Elisabeth Longy, vous êtes notre invitée, vous êtes en ligne. Vous avez suivi les interventions de tout à l'heure. C'est vrai que les inquiétudes sont pratiquement de plusieurs ordres. Il y a Jean qui est à Kinshasa qui a évoqué la question sur les états généraux. Et il y a Justin Kalima qui parle de la suppression de certains services qui doit également faire l'objet de cette réforme. Et il y a également le point sur la maîtrise de l'effectif. Et je sais que parmi les piliers, le troisième pilier concerne notamment la maîtrise des effectifs de l'administration et la disponibilisation d'un registre de la fonction publique qui doit être aussi transparent.
Merci Radio Capi, ce sont des interventions très enrichissantes et je remercie nos auditeurs pour les encouragements. Je me sens très à l'aise, je me dis que la population congolaise, les fonctionnaires se sont réellement appropriés cette réforme. Bien sûr, il y a eu des états généraux, il y a eu des audits, il y a eu des évaluations, des analyses stratégiques, tout ça on l'a vu. Mais aujourd'hui, on doit passer à l'autre étape, c'est-à-dire la concrétisation de la réforme. Les problèmes de la réforme ont été identifiés et aujourd'hui, il faut que chacun, dans la mesure du possible et suivant ses responsabilités, puisse s'engager à réformer. C'est vrai qu'il est facile de condamner le gouvernement. Oui, le gouvernement a sa part des responsabilités, pas seulement le gouvernement, mais les gouvernements qui se sont succédés. Mais quelle est la part du fonctionnaire lui-même là-dedans? Qu'est-ce que le fonctionnaire a fait pour sortir de cet engrenage? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une bonne responsabilité du fonctionnaire lui-même dans la détérioration du fonctionnement même de l'administration. Donc, on ne doit pas faire fi de tout ce problème. Quand le ministre actuel de la fonction publique est arrivé, il a trouvé tout ce problème-là. Il a trouvé une réforme qui balbutiait, qui n'avançait pas. Mais la première question qui s'est posée, c'est de savoir, va-t-on jeter le bébé et l'eau de bain? Est-ce qu'on doit mettre des fonctionnaires, tous les fonctionnaires à la porte, et prendre de nouveaux fonctionnaires? On n'a jamais vu ça. Donc, il faut faire avec les fonctionnaires. Mais les fonctionnaires doivent savoir qu'il y a un code de conduite et des valeurs d'éthique à respecter. À partir du moment où chaque fonctionnaire est conscient qu'il a une place et un rôle à jouer dans la réforme, je vous assure que les choses seront faciles. Les résistances à la réforme, c'est aussi interne. Les résistances à la réforme, c'est aussi dans les chefs des fonctionnaires que nous sommes. Quand nous ne voulons pas de changement, quand nous ne voulons pas casser les œufs. Bien sûr, le point de départ, c'est la maîtrise des effectifs. Je suis d'accord avec l'auditeur qui a parlé de l'identification des effectifs, parce qu'on ne peut pas avoir un salaire attrayant, on ne peut pas concevoir toute une politique si on ne maîtrise pas les effectifs. Mais pour cela, il faut aussi rationaliser le cadre organique. Un service a besoin de qui exactement pour fonctionner? Un service a besoin de quoi exactement pour fonctionner et aussi lutter contre les antivaleurs. Les problèmes qui rongent l'administration aujourd'hui, c'est quoi? Le non-respect aussi par les fonctionnaires des procédures administratives. Les grades que les fonctionnaires ont eus en dehors du cadre normal. Les fonctionnaires qui font du pied dans les administrations pour obtenir des grades, pour obtenir des promotions, sans respecter la hiérarchie. Vous n'allez pas condamner le gouvernement. Nous avons tous une part de responsabilité là-dedans. Mais aujourd'hui, nous devons regarder tous dans la même direction, nous dire que oui, nous voulons réformer et acceptons le prix de la réforme. L'environnement du travail, oui, c'est vrai. J'aime ces beaux bâtiments de la fonction publique qui montre en effet à la face du monde la
oui, bah, oui, s'il vous plaît, Madame Godelive, voilà, on vous retient encore, juste pour quelques minutes, comme ça vous allez revenir sur la question sur l'environnement du travail. Le temps pour nous de demander également à Richard, qui est à Chabunda, de rester en ligne, et on vous retrouve juste après le flash d'information avec Belinda Boussouma. Voilà, nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Madame Godelive, Elisabeth Longy, vous êtes directeur de cabinet au ministère de la fonction publique. Vous parlez tout à l'heure de l'environnement du travail pour répondre à la préoccupation de Justin qui nous a appelé de Kalima.
Ok. Je parlais aussi du bâtiment de la fonction publique qui ne reflète pas aujourd'hui l'autorité de l'État. C'est évident. Mais les réformes doivent apporter aussi des changements d'environnement de travail. C'est un cercle vicieux. Il faut relancer la production, donner à l'État les moyens de sa politique pour arriver à améliorer l'environnement du travail. Pour cela, il y a des concessions à faire, et de la part de l'État et de la part des fonctionnaires. Quelle est notre vision, nous, en tant que fonctionnaires de la chose publique? L'hygiène dans les milieux professionnels, qu'est-ce que nous en faisons? Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut voir. Mais je reste positive et je reste confiante parce que je sais que tous ces problèmes, le fonctionnaire le connaît déjà, le fonctionnaire en est conscient et le fonctionnaire de l'État s'est engagé dans une réforme de ses structures, une réforme de la législation, une réforme aussi de sa façon de travailler. N'oublions pas que le fonctionnaire de l'État a ce qu'on appelle un code de conduite de l'agent public et des valeurs d'éthique auxquelles il est attaché. Donc pour nous, nous devons arriver à nous mettre autour d'une table, chacun suivant ses responsabilités et aller de l'avant.
Voilà, madame, si vous permettez, on va accorder la parole à deux auditeurs avant de vous libérer. Richard qui est à Chabunda et Franck qui nous appelle de Vienne, en Autriche. Richard, bonjour. Richard, vous êtes à Chabunda, bonjour. Voilà, nous prenons plutôt Franck qui est à Vienne. Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Ouais, bonjour monsieur Gère, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Voilà, vous avez la parole, Franck.
Oui, je suis en train de suivre avec intérêt l'argumentation de l'invité au studio, mais je voudrais seulement objecter en 3-4 mots. Qu'est-ce qu'on doit réformer là? On réforme l'administration en soi comme système bureaucratique, ou on doit d'abord aussi combattre une série d'antivaleurs qui a vraiment trouvé asile dans le mental du peuple congolais? Parce que si nous devons observer ce qui se passe chez nous, Il y a quelques jours, vous veniez d'organiser un débat sur le changement de mentalité. Le problème est d'abord d'ordre mental. J'ai suivi là des confrères qui ont évoqué ceci, cela, mais je crois, moi personnellement, je trouve qu'à l'état où nous nous trouvons, on peut donner à l'administration congolaise tout ce dont elle peut avoir besoin, les ordinateurs, les immeubles, donc l'argent. Mais tant que le mental n'est pas encore repensé, donc on risquera de retomber dans le même. Donc, les antifas.
Voilà, Franck, on a des petits problèmes, on a des petits soucis, hein, avec votre, avec cette communication. Bon, voilà, on a tout de même compris la question, mais on voulait peut-être vous, le temps pour nous de redonner la parole à notre invité qui pourrait revenir en à large sur les cinq piliers, hein, les objectifs à atteindre pour cette réforme. Madame Godelive.
Merci, je salue tous les auditeurs de Chaboun d'à travers Richard. Il est évident qu'on ne peut pas réformer sans combattre les gens tout à l'heure. Ça va de soi. Maintenant, nous devons faire le premier pas, c'est-à-dire accepter qu'il y ait du changement, accepter qu'il y ait des réformes qui vont nous amener à améliorer notre situation. Nous ne pouvons pas mettre la charrue devant le bœuf, chercher une amélioration sans pour autant engager des réformes. C'est un cercle vicieux, comme j'ai eu à le dire, mais il faut accepter de le faire. Aujourd'hui, les axes de la réforme sont bien connus. L'administration aujourd'hui est impliquée totalement dans sa réforme. Parce que pour l'actuel ministre de la fonction publique, il ne s'agit pas de mener une réforme en dehors de l'administration, mais c'est de mener une réforme avec l'administration. Elle doit être consciente de tous les problèmes qu'elle a eus et doit aussi s'engager à changer, à devenir cette administration de 1960 qui tenait aux valeurs, cette administration qui donnait satisfaction aux usagers. Il y a beaucoup de gens qui gardent encore le souvenir de cette administration. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que chacun de nous doit s'engager.
Voilà. Alors, pour terminer avec vous, madame, l'établissement d'une caisse de retraite, le coût estimé par rapport à cette action, c'est autour de 500 000 dollars, à moins qu'on se trompe avec les chiffres. Mais alors, quelle sera la source de financement?
La source de financement, d'abord, c'est l'État. L'État ne peut pas mener des réformes sans avoir préparé les moyens pour le faire, à sa manière et à son rythme. Et après, il y aura évidemment éventuellement l'apport de partenaires au développement qui sont avec nous actuellement et qui sont engagés à accompagner la RDC dans sa réforme, aussi en finançant des activités de réforme.
Voilà. Alors, nous savons qu'en en plus de ces de cinq piliers qui sont à la base donc de cette réforme, le ministère de la fonction publique considère qu'il faut soutenir également la réhabilitation des locaux abritant les sièges de la fonction publique. Là également, ça s'appelle quand même un coût. Est-ce que le coût là est estimé à combien?
Bon, je ne peux pas vous donner avec exactitude le coût parce que les études sont encore en train d'être réalisé, mais ce sont des bons moyens, parce que c'est pas seulement réhabiliter, mais restaurer un édifice qui devait normalement être classé dans le patrimoine national. Mmh. Donc ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de techniques, et ça demande beaucoup de précautions pour garder l'immeuble tel qu'il est là.
Alors le souci de Justin qui parlait de la suppression de certains services, vous lui répondez quoi?
Bon, il ne s'agit pas de supprimer comme tel mes services. Je ne sais pas de quels services. Ce sont des services connexes. Bon, je ne vais pas m'engager là-dedans. Donc, ici, nous parlons de la fonction publique, des services de l'État, c'est-à-dire les ministères, les secrétariats généraux. Pour cela, nous nous sommes lancés dans la rationalisation des cadres organiques, c'est-à-dire la définition des emplois, la définition de fixer ici les effectifs pour être sûr que nous maîtrisons le fonctionnement de nos administrations. Mais pour les autres les services qui sont créés par l'État en dehors de l'administration, je ne pourrais pas m'aventurer là-dedans.
Voilà, on va terminer avec vous donc, madame. Godelive Elisabeth Longy, nous rappelons que vous êtes directeur de cabinet au ministère de la fonction publique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Radio Capitale.
Voilà, nous allons prendre Richard qui est à Chabunda. Richard qui est à Chabunda qui aimerait bien également intervenir. Voilà, on était obligé de libérer notre invité qui est appelé à d'autres charges. Richard, vous êtes à Chabunda, bonjour. Voilà, Richard n'est pas en ligne. Nous rappelons que nous parlons aujourd'hui de la réforme de l'administration publique qui a été lancée depuis 2002, une innovation dans la fonction publique qui cherche à simplifier, on vient de suivre d'ailleurs notre invité, les simplifier les procédures, à motiver les fonctionnaires, à accélérer l'exécution des décisions, à faciliter l'accès aux services publics, à garantir la sécurité de tous, à déraciner les pratiques corruptives et à réduire des coûts. Alors tout cela dans le but de rendre les services publics sensibles aux besoins des citoyens et aux enjeux des États modernes. La question du débat, pensez-vous que cette réforme pourrait susciter l'émergence d'un nouveau type d'agent de l'État? Nous avons tout suivi des interventions des uns et des autres. Vous avez également votre point de vue. N'hésitez pas à déposer vos commentaires sur notre page Facebook ou encore nous écrire à notre adresse pa@radiocapi.net.
Allô? Mais ils ne répondent pas?
D'avoir participé à ce débat. Merci également à Alain Goy qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Mputu et Pierrot et la Meji l'ont réalisé et J.R. Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Les pluies dans la ville de Kinshasa ont causé d'énormes dégâts et pertes en vies humaines et dans la plupart des cas, les sinistrés ne bénéficient d'aucune assistance. Selon vous, les inondations sont-elles une fatalité? Comment fonctionne le mécanisme national des actions humanitaires? C'est pratiquement la question qui constituera les débats de demain. Pour participer, inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires et préoccupations et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. À très bientôt.